I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sports ad free. That's amazon.com/sports ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. En juin, Code Source est revenu sur le fiasco de Nysna, la grève du bus il y a 10 ans. Ça nous a donné envie de vous raconter d'autres étés des Bleus beaucoup plus glorieux.
En tête des buts de Dugarry, super, mais voilà,
frappe de Di Maggio, ça part ! La France est qualifiée pour les demi-finales !
Après ce match-là, on a commencé à se dire, maintenant on va au bout.
Bien frappé au premier poteau.
Aujourd'hui, Christophe Bérard du service des sports du Parisien nous raconte le Mondial 98 en France. Mal aimé d'une partie de la presse nationale, le sélectionneur Aimé Jacquet va décrocher un premier sacre mondial avec Zizou, Thuram, Deschamps, Barthez et les autres. Le 12 juillet 1998, au soir, un visage apparaît sur l'Arc de Triomphe à Paris.
Celui de Zinedine Zidane, c'est Adidas, le sponsor des Bleus, qui a eu cette idée, qui s'est révélée une idée de génie, de projeter le visage de tous les champions du monde. Mais ce qui va marquer les mémoires, c'est celui de Zidane avec la foule en délire. Plus d'1,5 million de personnes sur les Champs-Élysées et les gens se mettent tous à crier « Zidane président ». C'est peut-être l'image iconique de ce Mondial 98.
Et le match à peine terminé, des centaines et des centaines de milliers de supporters ont envahi les Champs-Élysées. Une fête comme la France n'en avait pas connue, dit-on, depuis la libération. Une communion totale de tout un peuple.
Aujourd'hui encore, il n'y a pas une personne qui ne se souvient pas où elle était à ce moment-là. Ça fait partie des marqueurs générationnels.
Sous l'œil des géants de l'équipe de France, 1,5 million de personnes hier soir sur les Champs-Élysées.
Il y a une liesse incroyable. Alors moi j'étais à Lyon, la place Bellecour, j'ai jamais vu autant de monde avec un concert de Louis Bertignac qui chantait, mais les gens n'avaient pas du tout envie de l'entendre.
Faut pas qu'ils oublient que Zidane c'est un Algérien, un Kabyle.
Ça a été le summum de ce qu'on a appelé la France black-blanc-beurre pour, disons, schématiser un petit peu les diverses origines de cette équipe. C'est des instants qu'on n'oublie pas. C'était une pure folie.
Christophe Bérard, vous allez nous raconter aujourd'hui comment on en est arrivé là, ce Mondial 1998. C'est déjà une fête au départ parce qu'il se joue à la maison, en France, et ça a été un gros travail. Il a fallu rénover des stades et même en construire un.
Oui, parce que la seule fois que la France avait accueilli la Coupe du Monde, c'était en 1938. Donc là, effectivement, il y avait un cahier des charges. Il fallait un stade de plus de 80 000 places pour accueillir notamment la finale. Et on a choisi le stade de France. Alors, on a choisi Saint-Denis. Et puis, il a aussi fallu choisir l'architecture de ce stade. À la fin, c'est le Premier ministre de l'époque, Édouard Balladur, qui a choisi cette espèce d'ellipse qui, très objectivement, tue un peu le charme du football parce que quand on est spectateur, on est assez loin de la pelouse et du spectacle. Et ensuite, il a fallu nommer ce stade, lui donner un nom. Alors, on a tout proposé, stade des Mousquetaires, stade Michel Platini, qui est toujours vivant. Et au final, c'est la chanteuse Liane Folly qui a dit, mais pourquoi on l'appellerait pas tout simplement Stade de France ? On s'est dit, allons au plus simple, c'est le Stade de France et aujourd'hui, c'est le rendez-vous, c'est l'endroit où tous les sportifs souhaitent évoluer un jour.
Et parmi les ouvriers qui ont construit le Stade de France, il y en a un tout à fait particulier.
Oui, il s'appelle Smaïl Zidane, donc vous avez compris à qui ça fait allusion. C'est tout bêtement le papa de Zinedine Zidane. Évidemment, il ne savait pas que quelques années plus tard, en janvier 98, pour l'inauguration du Stade de France, c'est son fils Zinedine Zidane qui allait marquer le premier but de l'histoire de ce stade et qui allait ensuite en inscrire bien d'autres beaucoup plus marquants.
En tant que pays organisateur, la France est qualifiée d'office, tout comme le Brésil, champion du monde en titre. À ce moment-là, quel est le palmarès, le parcours footballistique d'Aimé Jacquet?
À 57 ans, Aimé Jacquet, ça a été un joueur de Saint-Etienne, de Lyon, qui est devenu ensuite entraîneur en club, qui a notamment été 3 fois champion de France avec Bordeaux. Et ensuite, ça s'est moins bien passé avec Nancy et Montpellier. Et il a atterri à la direction technique nationale, où il a d'abord été l'adjoint de Gérard Rouillet, avant de prendre lui-même les rênes de l'équipe de France en 1994.
Aimé Jacquet, c'est quelqu'un de simple?
Il est natif de la Loire, du village de Seil-sous-Couzan. Il a eu son CAP de métallurgiste. Il a travaillé dans les aciéries. Vraiment, ça a été un ouvrier. Et il a gardé de ses racines, de cet amour du travail. C'est quelque chose qui l'a marqué à vie. C'est quelqu'un qui vient, même pas du football d'en bas, qui vient vraiment de l'usine.
Le 5 mai, Aimé Jacquet doit dévoiler la liste des 22 joueurs retenu pour le Mondial 98.
Finalement, un petit peu à la surprise générale, il ne donne pas une liste de 22 joueurs, mais de 28 joueurs, parce qu'il décide de garder une possible réserve en cas de pépin physique pendant le stage. Et c'est quelque chose qui n'est pas très bien perçu.
Pourquoi ?
À cette époque, le journal L'Équipe est quasiment en guerre ouverte avec le sélectionneur. Le lendemain de l'annonce de ces 28 au lieu de 22, il y aura ce titre assez assassin, assez méchant de L'Équipe. Et on joue à 13, point d'interrogation. Donc, qui se laisse quasiment entendre que c'est vraiment des choix d'amateurs. Ces titres-là vont cristalliser la haine, le mot n'est pas trop fort, entre le sélectionneur et le journal L'Équipe, qui à cette époque est un petit peu le leader d'opinion publique.
11h45 ce matin, Aimé Jacquet met fin à un long suspense et confirme ce que les sélectionnés français savaient depuis hier soir. De 28, la liste des joueurs est enfin ramenée à 22 noms, un choix qui élimine un gardien, Letizy, et 5 joueurs de champ, L'Aigle, Gétou, Lamouchi, Bah et Anelka.
Comment les Bleus se préparent à cette compétition?
Ils vont faire un peu dans le classique, c'est-à-dire qu'ils vont d'abord se préparer en altitude, à Tignes, pour s'oxygéner. Et ensuite, ils vont notamment disputer un tournoi de football au Maroc. Les Bleus vont faire un match nul, s'imposer 2 fois. Le contenu du jeu n'est pas excellent, mais à la limite, c'est un peu normal à ce moment-là, parce qu'ils sont juste un petit peu en phase ascendante. Mais dans l'opinion publique, monte encore plus le doute qui y habite, parce qu'il faut être très honnête, avant le Mondial, il y a beaucoup, beaucoup de doutes qui escortent l'équipe de France. Il y en a très peu à penser que les Bleus vont faire un excellent Mondial.
Sur quoi est-ce qu'on doute de cette équipe de France?
On doute notamment d'Aimé Jacquet. Il y a beaucoup de suiveurs qui estiment, à l'image de l'équipe, que Aimé Jacquet n'est pas la bonne personne, ce n'est pas un leader, c'est quelqu'un qui ne s'exprime pas très bien. On explique que Christophe Dugarry, l'attaquant, un véritable ami de Zinedine Zidane, ne doit sa place qu'à son amitié pour Zidane et pas à son talent pur. Enfin voilà, on doute de beaucoup de choses. L'équipe de France, eux, sont persuadés qu'ils vont aller loin, mais autour d'eux, ils sont très peu.
Quelles sont les têtes d'affiche de cette équipe?
La première tête d'affiche, c'est évidemment Zinedine Zidane, le capitaine, le leader, non pas technique, mais le leader, le meneur d'hommes qui est Didier Deschamps. On a Fabien Barthez, le gardien. Il faut savoir qu'à cette époque, la grande majorité des Français jouent dans les championnats étrangers, notamment le championnat italien, où ils ont acquis au fur et à mesure des années une science du jeu, du très haut niveau, notamment en Coupe d'Europe. On a les deux arrières latéraux, Lilian Thuram, Vicente Lizarazu, la défense centrale, Laurent Blanc, Marcel Desailly. Sincèrement, c'est un mur. Et devant, il y a aussi du talent. Youri Djorkaeff, franchement, c'est quand même costaud.
Le Mondial 98 se dispute du 10 juin au 12 juillet. L'équipe de France est dans le groupe C. Premier match des Bleus, le 12 juin, chez Zinedine Zidane à Marseille. C'est contre l'Afrique du Sud et il y a beaucoup de vent au stade Vélodrome.
Oui, il y a du vent. Une entrée de compétition, c'est toujours très compliqué, c'est stressant. Il faut savoir se libérer. Ce vent n'était pas vraiment prévu. C'est assez un peu gênant de jouer. L'Afrique du Sud, bon, évidemment, c'est une formation un peu faible qui joue un peu en défense, qui se procure au tout début même quelques occasions. On se dit, oula, qu'est-ce qui se passe? Donc, il faut une libération.
À la 35e minute, Zidane va taper un corner.
Et le ballon va arriver sur qui? Sur la tête de son ami Christophe Dugarry.
En tête des buts de Dugarry, super, mais voilà!
Qui d'une tête retournée ouvre le score. Et à ce moment-là, évidemment, c'est l'explosion des Français, du stade et de Christophe Dugarry qui avant se permet, c'est une image qui a beaucoup marqué, il tire la langue en direction de la tribune de presse. Et cette libération, cette espèce de petite langue un petit peu moqueuse, enfantine, ça va donner une autre dimension. C'est que d'un coup, ce sont des gamins qui s'amusent. Et l'ouverture du score de Dugarry, elle fait un bien énorme au bleu. Et c'est presque un jeu d'enfant pour les Français d'enfoncer le clou. 2 buts supplémentaires. La France a réussi ses débuts. 3-0 contre l'Afrique du Sud. Tout va bien.
Cette belle entrée dans la compétition, c'est un soulagement pour Aimé Jacquet?
Mais bien sûr, parce que qu'est-ce qu'il est compliqué d'entrer, se préparer pendant des mois et des mois, et pour les Bleus pendant des années, pour une Coupe du Monde. C'est comme une première réplique dans une scène de théâtre. Il faut savoir la dire pour se mettre en confiance. C'est très important pour la confiance.
Voilà, c'est parti donc pour ce match. Coup d'envoi donné par l'Arabie Saoudite.
Deuxième match des Bleus, 6 jours plus tard au Stade de France contre l'Arabie Saoudite. Les Français gagnent 4-0, mais il y a de la casse.
Deux gros points noirs. D'abord la blessure de Christophe Dugarry, problème musculaire qui va le priver de quasiment de toute la compétition. Et surtout, l'énorme bêtise, le coup de folie de Zinedine Zidane, alors que la France mène 2-0. Un défenseur saoudien vient essayer de lui prendre le ballon, rate un peu son geste et bouscule Zidane. Bon, il y a faute, mais Zidane a le très mauvais réflexe de se venger.
Ah, il est expulsé Thierry, expulsé.
Et oui. Il a marché dessus.
Et oui.
Et Zidane est expulsé. Voilà un autre coup dur pour l'équipe de France.
L'arbitre est à 2 mètres. La décision, elle est évidente. Carton rouge. Et carton rouge, c'est plusieurs matchs de suspension.
Jouer sans Zidane, pour les Bleus, ça semble difficile.
C'est comme les Bleus d'avant s'ils avaient joué sans Platini, ou ceux d'aujourd'hui sans Mbappé. Le déficit technique, mental, il est énorme, parce que non seulement c'est le meilleur joueur de l'équipe, mais en plus il fait peur aux adversaires. Non, c'est un très très gros handicap.
Vous l'avez dit, Christophe Dugarry est blessé. Pour lui, ça signifie que la compétition est terminée?
Alors, une blessure musculaire comme ça, c'est plusieurs semaines d'arrêt. Là, il va tout faire pour éventuellement, sur la fin de la compétition, être là. Mais dans les faits, il n'est plus, parce que une blessure musculaire pour un attaquant, c'est très compliqué à soigner. Clairement, le mondial est quasiment définitivement fini pour Dugarry.
Quel est son seul espoir pour lui?
Que la France aille en finale. C'est-à-dire que le 12 juillet, elle soit encore en état de jouer et que peut-être lui, avec beaucoup de soins, soit en état de jouer.
Le 24 juin à Lyon, les Bleus battent le Danemark 2-1, des buts de Youri Djorkaeff et Emmanuel Petit. Ils sont qualifiés pour les huitièmes de finale, une victoire, Christophe Bérard, obtenue avec une majorité de remplaçants.
Oui, parce que l'avantage de gagner ces deux premiers matchs et d'être qualifié, ça permet de faire tourner l'effectif et donc de reposer les titulaires pour la suite de la compétition. Ce jour-là, sous mes yeux à Gerland, alors certes les Français ont gagné, mais il y a un petit bémol, c'est que Bernard Lama, qui normalement devait jouer ce match, a refusé en disant vexé de ne pas être le gardien titulaire et il ne veut pas juste jouer un match sans enjeu, donc il refuse et finalement Aimé Jacquet est obligé de titulariser Fabien Barthez. Ce petit problème d'ego va pas plomber l'ambiance, mais c'est la petite fausse note du jour.
Quels sont les remplaçants qui s'illustrent ce jour-là?
Notamment Robert Pires, Patrick Vira qui est le remplaçant naturel de Didier Deschamps, ou David Trezeguet en pointe. On a aussi Franck Leboeuf en défense centrale qui soulage Laurent Blanc, et ces joueurs prennent de la confiance.
C'est le début d'un autre mondial pour l'équipe de France.
Après ce match, tout recommence, parce que là on arrive en huitième de finale sur des matchs à élimination directe. Là on est dans une nouvelle dimension. À la fin du match, il y aura un éliminé. C'est un autre tournoi qui commence.
Le 28 juin, l'équipe de France dispute son premier match à élimination directe, son huitième de finale à Lens, au stade Bollard face au Paraguay. Ce match va être très serré.
Beaucoup plus serré qu'on pense. Déjà, il y a une chaleur intense au stade Bollard qui surprend un petit peu les Français. En face, c'est le Paraguay. Le Paraguay, franchement, personne ne les voit gagnants, donc ils n'ont rien à perdre. On pense que les Français vont, avec un peu de patience, tout va bien se passer. Et plus les minutes avancent, plus les Français s'enlisent, ont du mal. Les Paraguayens jouent en défense. Leur gardien emblématique, leur capitaine José Luis Chilavert, multiplie les parades. Et plus les minutes passent, plus le doute pèse sur les épaules des Bleus. Clairement, il y a un truc qui ne va pas ce jour-là.
Et c'est fini, 0-0 à la fin du temps réglementaire. Il faut un vainqueur.
Quelle est la règle pour départager les deux équipes?
C'est ce qu'on appelle la règle du but en or, à savoir que au premier but marqué en prolongation, fin du match, on arrête. Celui qui a marqué a gagné. On ne va plus au tir au but. Autrement dit, celui qui va marquer tout de suite sera qualifié.
Hakuna, la frappe d'Hakuna qui passe devant le but.
Eh oui, mais ils prennent des risques.
Les prolongations débutent. Tous les supporters de l'équipe de France retiennent leur souffle.
Ils sont en sueur au stade ou devant leur télé partout. C'est oppressant. On est en train de se dire, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Les Français essayent, tentent, mais on voit bien que Chilavert, ce jour-là, semble en état de grâce. C'est une figure emblématique. C'est quelqu'un qui est connu en plus, notamment pour être très fort pour stopper les pénaltys. Donc voilà, la tactique paraguayenne, elle est évidente. Tenir 120 minutes et disputer la séance des tirs au but. Et là, on estime qu'il y aura un avantage psychologique pour les Paraguayens. Donc vraiment, les jambes des Bleus, elles pèsent des tonnes. Le ballon semble peser des tonnes. C'est lent, c'est dur, c'est oppressant. Les Bleus tentent, les Bleus essayent, mais il y a toujours un pied paraguayen. Il y a toujours un 10 cm qui manque. C'est très oppressant.
Que se passe-t-il?
Et finalement, Laurent Blanc, il est défenseur central. Normalement, il n'a rien à faire aux avant-postes. Et à un moment, Laurent Blanc campe dans la surface paraguayenne alors que Lilian Thuram, Bichette et Lizarazu lui crient de revenir en défense en disant « T'es en train de nous déséquilibrer derrière, reviens, on n'a pas besoin de toi devant. »
Il y a le risque de se prendre un but en or.
Ben oui, parce que s'il y a un contre, il y a un défenseur en moins. Donc, et puis, il y a déjà assez de monde dans la surface. Mais il reste, Laurent Blanc. Ça dure quelques minutes. Blanc reste dans la surface. Et à un moment, Robert Pires va donner le ballon à David Trezeguet, qui va remettre dans la surface pour qui ? Bah pour Laurent Blanc qui est là et qui marque, qui bat José Luis Chilavert.
Oui, c'est fini ! But de Laurent Blanc ! La France est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. La lumière est venue de Laurent Blanc !
La France a rendez-vous avec une grande nation du football, l'Italie, pour son quart de finale, le 3 juillet, au Stade de France. Zinedine Zidane rejoue, mais Christophe Bérard, à ce moment-là, les Italiens n'ont jamais perdu un quart de finale en Coupe du Monde.
Exactement, et les Italiens, c'est tactiquement, c'est encore une des équipes les plus fortes du monde, et ils vont le prouver face à l'équipe de France. Ils vont tisser une toile tactique qui va empêtrer le jeu des Bleus.
Si c'était pas un grand match, c'était un match... plutôt difficile, plutôt haché, il n'y a pas eu trop d'occasions.
Ils vont bloquer le jeu de Zidane, ils vont bloquer celui de Djorkaeff, ils vont bloquer les trajectoires de balles, ils vont empêcher la France de jouer son jeu par des pressions, par du pressing. Tactiquement, c'est extrêmement bien joué, ils éteignent les flammes bleues.
Que font les joueurs de l'équipe de France ?
Ils restent patients, surtout ils ne s'affolent pas, surtout ils ne baissent pas la garde parce que leur inquiétude, c'est de prendre un but. Face aux Italiens, c'est quasiment à la certitude de perdre. Parce qu'ils savent tenir un résultat. Donc le principal, c'est surtout ne pas prendre de but. Donc il faut veiller constamment à garder cet équilibre entre une défense solide et des tentatives offensives. Mais c'est très compliqué. Mais ils gardent la tête froide.
Les joueurs de l'équipe de France, ils connaissent très bien leurs adversaires.
Ah bah, pour une grosse partie des Bleus, ce sont leurs amis, leurs collègues en face. Parce qu'à cette époque, la majorité des cadres bleus évoluent dans le championnat italien. À la Juventus de Turin, on a Zinedine Zidane et Didier Deschamps. À Parme, on a Lilian Thuram. À l'Inter de Milan, on a Youri Djorkaeff. Et au Milan AC, on a Marcel Desailly. C'est Italie contre Italie. Ça se termine logiquement par un 0-0. Donc c'est la deuxième prolongation d'affilée pour les Bleus après celle du Paraguay.
Prolongation avec cette fameuse règle du but en or.
Oui, et avec évidemment un Stade de France qui retient son souffle, 80 000 personnes oppressées. De quel côté la pièce va-t-elle tomber ? Parce que avec la règle du but en or, évidemment, le premier qui marque se qualifie.
Décrivez-nous cette prolongation.
Elle est encore oppressante, mais à un moment, les Italiens, bah, ils lancent une offensive assez très bien jouée côté droit, et Roberto Baggio, un des meilleurs joueurs d'Italie, a une opportunité incroyable, et sa reprise, je la vois encore, on a l'impression que cette scène, elle dure des heures. Le ballon passe loin de Fabien Barthez qui est archi battu et on est tous persuadés qu'il va finir dans les filets français et ce sera la fin du rêve. Et il passe à quelques centimètres du poteau droit de Barthez. Ouf, on a échappé au pire.
0-0 au terme des prolongations, ça va se jouer au tir au but. Là encore, tout le monde a le cœur serré.
Exactement. Alors, chaque équipe, lors des 5 premiers tirs au but, va rater une fois, notamment Youri Djorkaeff pour l'équipe de France. Donc on en arrive, on est à 4 partout. À ce moment-là, les Français réussissent le leur, 5-4. Les Italiens ont encore un tir au but à tenter. S'ils le ratent, c'est fini. Et l'Italien Di Biagio va envoyer le ballon sur la transversale.
Di Biagio, de Padello, frappe de Di Biagio, la France est qualifiée pour les demi-finales.
Fabien Barthez, il comprend pas que c'est fini. Il comprend pas pourquoi d'un coup, tous ses coéquipiers se précipitent sur lui. Il dit, mais c'est fini. Oui, c'est fini. Le destin a choisi la France. Le ballon a tapé la barre, fracassé les rêves italiens et maintenu les Français en vie. La France est en demi-finale du Mondial.
Après ce match-là, on a commencé à se dire, maintenant, on va au bout.
Les Bleus sont donc qualifiés pour les demi-finales du Mondial et ils ont de la visite dans le vestiaire.
Bah, ils ont Jacques Chirac, le président de la République, et Lionel Jospin, le Premier ministre. Alors Jacques Chirac, il faut savoir que ce n'est pas un grand connaisseur de football, mais il adore les sportifs. Et il s'est pris petit à petit de passion pour cette équipe. Et instinctivement, il sent que cette popularité des Bleus peut l'aider aussi. Et il va les voir, et il est d'un naturel, d'un abord assez facile. Il va s'amuser à parodier la petite tradition qu'il y a chez les Bleus, à savoir que Laurent Blanc, avant chaque match, embrasse le crâne de Fabien Barthez. Bah, il va embrasser le crâne de Fabien Barthez, à la grande surprise, à la grande joie de toute cette équipe. Il dit, mais le président fait comme nous. Il va sympathiser, il va aller chambrer, il va dire à Didier Deschamps, par exemple, qu'il est presque jaloux parce qu'il commence à être plus populaire que lui. Il dira ensuite à Emmanuel Petit qu'il est trop beau et que sa femme le trouve très beau. Enfin, il chambre, il s'amuse avec les Bleus. Et les Français, ben, ils sont super contents parce que d'un coup, qu'est-ce que ça signifie ? C'est pas seulement les amateurs de foot qui sont derrière nous, c'est le monde politique, c'est le président, c'est la France. Et là, il y a quelque chose qui monte de plus en plus.
Déjà dans le vestiaire, les Bleus ont leur hymne « I Will Survive » de Gloria Gaynor. Pourquoi est-ce qu'ils aiment cette chanson ?
Grâce à Vincent Candela, qui est un des remplaçants de l'équipe de France, qui s'est pris d'affection pour cette chanson extrêmement rythmée, extrêmement emballante. Et il l'avait mise au début de la compétition. Et comme ça s'est bien passé, on continue. Il y a une superstition, les footballeurs adorent recommencer quand ça marche. Et petit à petit, au fur et à mesure des jours, cette chanson, elle est devenue l'hymne d'abord officieux de la France, avant de devenir quasiment l'hymne officiel, la chanson générationnelle.
D'un mot, Christophe Bérard, on sent la ferveur monter en France pour cette équipe, même chez ceux qui n'aiment pas le foot d'habitude.
Il y a un basculement. D'un coup, c'est la France entière, des people comme Johnny Hallyday, par exemple, qui va mettre le maillot bleu, qui va un peu se tromper en disant, au lieu de dire j'aime beaucoup Zizou.
Je connais Zazie,
C'est la France qui tombe amoureuse de ses 22 bleus et qui a envie de les voir en finale. Il y a un basculement énorme.
Vous qui êtes fan de foot depuis tout petit, vous sentez que le football, tout d'un coup, intéresse beaucoup plus de monde ?
Ah, mais moi, je peux vous dire que, d'un point de vue personnel, il y a un avant et un après 98. Avant 98, quand je disais que je travaillais dans le football comme journaliste, je sentais parfois un petit sourire en coin du genre, il va avec les beaufs, il faut savoir le dire. Après la Coupe du Monde, ça n'a plus jamais été le cas. Le football, à travers ce qu'il a montré lors de ce mondial, il s'est installé, il s'est devenu un fait de société, et depuis, plus personne ne l'a renié, plus personne ne s'en est moqué.
On en revient à la fin de ce quart de finale, le 3 juillet. Ce soir-là, on ne sait pas encore si les Français vont affronter l'Allemagne ou la Croatie en demi-finale. Surprise, la Croatie élimine l'Allemagne 3-0 et on en vient au 8 juillet 1998 au Stade de France. Les Bleus d'Aimé Jacquet sont favoris face à la Croatie, mais la première période est tendue.
La première période est tendue, l'équipe de France tente, essaye, mais en face, les Croates qu'on n'attendait pas à ce niveau, qui sont libérés après leur quart de finale à Gerland, ils jouent bien et il se passe quelque chose. Il y a 0-0 à la mi-temps, mais on sent quand même que l'équipe de France n'est pas maîtresse de son jeu, n'est pas maîtresse de son destin. Et à la pause, Aimé Jacquet, qui lui peut être parfois si doux, va avoir des mots extrêmement durs pour ses Bleus.
On est en train de s'aligner toutes nos chances. Pas difficile. Alors où on réagit ? Et on y va, parce qu'il y a une finale au bout, vous vous laissez tomber, et vous attendez, qu'on jette la pièce en l'air. Il n'y a personne qui bouge, personne ne réagit, on est à 10 mètres amorphes. Vous avez peur de quoi ? Vous avez peur de qui ? Peur ? Mais vous allez perdre, les gars, je vous le dis, vous allez perdre, vous n'avez pas de soucis à vous faire.
Comment ils réagissent, les Bleus ?
Pas bien du tout, au bout de 22 secondes seulement, Lilian Thuram, l'expérimenté Lilian Thuram, il va commettre une grosse erreur de placement et au lieu de s'aligner sur les autres, il va permettre à l'attaquant croate Davor Šuker de ne pas être hors jeu. Il va partir au but et il va marquer 1-0 pour la Croatie.
Comment est le Stade de France à ce moment-là ?
Glacé d'effroi. 1-0, c'est le coup de massue. Mais ça n'a pas duré longtemps. Lilian Thuram, il est fou furieux contre lui et sitôt la remise en jeu effectuée, il se précipite, lui le défenseur latéral, il se précipite aux avant-postes et il arrache quasiment littéralement le ballon des pieds d'un défenseur croate, il est devant la surface, il le donne à Youri Djurkaev qui instinctivement lui remet sans réaliser qu'il est en train de donner le ballon à son défenseur et Lilian Thuram se présente devant le gardien croate.
Et Lilian Thuram qui va se rattraper et qui égalise Lilian Thuram.
Lilian Thuram ne marque jamais un but, mais en quelques secondes, il a effacé sa faute.
Comment se passe la suite de cette demi-finale ?
Lilian Thuram, qui n'a jamais marqué, il va respecter les consignes de Aimé Jacquet, qui demande aux défenseurs latéraux de monter pour déséquilibrer la défense adverse. Sur une remise de Thierry Henry, il va se précipiter devant la surface, un contrôle improbable, et d'une frappe enroulée du pied gauche, il est droitier.
Appui sur Thierry Henry, Thuram peut-être, Thuram la frappe,
il est
la but.
Il a cette image qui va rester également dans les mémoires. Pendant une seconde, le temps que ses coéquipiers viennent le féliciter, il va porter le doigt sur son nez dans une posture d'incompréhension. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai jamais marqué de ma vie et là je viens de marquer 2 buts en demi-finale du mondial. Incompréhensible.
Et là tous les joueurs se jettent sur lui.
Les joueurs se jettent sur lui et sont hilars. Parce que certains diront ensuite, mais Lilian, même à l'entraînement, il ne marque pas. Il rate les buts. On a l'impression que dans la surface, les buts, ils font 20 cm. Quand il y a Lilian qui essaie de tirer, Lilian ne sait pas marquer. Et Lilian vient de marquer 2 buts. C'est l'hilarité, c'est la joie, c'est incroyable.
Coup dur pour les Bleus. À la 73e minute, Laurent Blanc est expulsé.
Dans la surface, Laurent Blanc tombe dans le piège de la provocation du Croate Bilic, qui commet une faute sur lui et il fait l'énorme erreur de se venger, de lui donner une espèce de manchette, d'espèce de petit coup de poing sous le menton. Bilic en rajoute énormément, se tient le front qui n'a pas été touché, et l'arbitre, ne voyant que la fin de l'action, sort le carton rouge. Laurent Blanc est expulsé, Laurent Blanc ne jouera pas la finale. un des meilleurs joueurs de l'équipe, un des patrons de la défense, ne jouera pas. Ça, c'est un gros coup dur pour les Bleus.
Les Croates ne lâchent rien. Les dernières minutes du match sont irrespirables.
Bichente Lizarazu, Lilian Thuram, Marcel Desailly arrachent les ballons qui semblent décisifs devant les Croates. Ils repoussent le danger. Chaque seconde semble durer une minute. Chaque minute dure des heures. Mais au final, au bout de 5 minutes d'arrêt de jeu oppressante, l'arbitre siffle la fin du match. Les Bleus sont en finale.
Il est 22h55, la France explose de joie.
Et elle ne va pas se coucher de sitôt, elle va envahir, on parle de 300 000 personnes à ce moment-là, je crois, sur les Champs-Élysées. Tout le monde sort. Une finale, c'est inédit. La France avait donné rendez-vous et en plus, elle va jouer contre la meilleure équipe du monde, France-Brésil. Au début de la compétition, on se prenait à rêver en disant oh, « si on pouvait jouer le Brésil en finale, ce serait formidable. On va jouer le Brésil en finale. La France est en liesse. »
On en arrive au dimanche 12 juillet 1998. Vous, Christophe Bérard, vous étiez où ?
Alors, à mon grand regret, j'étais devant ma télé, puisque j'étais à ce moment-là, je travaillais comme correspondant pour Le Parisien à Lyon, et mon mondial à moi s'était arrêté après le quart de finale Allemagne-Croatie. Le dernier match, je jouais au Stade Gerland. Donc ensuite, c'est en simple, mais fervent supporter, que j'ai suivi et la demi-finale et la finale.
La France dispute au Stade de France à Saint-Denis sa première finale d'un mondial de football. Comment se présente ce match pour les Français ? Ils sont en forme ?
Ils sont en forme, ils sont concentrés, ils ont atteint le premier but, mais Aimé Jacquet va leur dire « Attendez les gars, on n'a pas fait tout ce travail juste pour arriver en finale. » Après, il y a aussi le chantier, c'est le remplacement de Laurent Blanc, c'est Franck Leboeuf, qu'il s'agit de mettre très vite dans les bonnes dispositions tactiques avec Marcel Desailly, avec Bichente Lizarazu, avec Lilian Thuram. Donc il y a tout ce travail, mais les Bleus sont extrêmement concentrés, ils veulent être champions du monde. La finale, ça ne leur suffit pas.
Les Brésiliens arrivent diminués de leur côté.
Dans la nuit précédant la finale, il y a eu une espèce d'énorme problème chez les Brésiliens. À 4h du matin, Ronaldo, le Ballon d'Or 97, le meilleur joueur du monde, est pris d'un énorme malaise. On parlera plus tard de crise d'épilepsie. Les médecins arrivent à son chevet. Il est inconscient quelques instants, enfin, il y a un vrai souci, il est transporté à l'hôpital et finalement les médecins décident qu'il est en état de jouer, mais ça on ne le sait pas à cet instant. Et pendant les deux heures précédant la finale, il y a une rumeur qui circule, Ronaldo ne va pas jouer la finale. Les Bleus, qui évidemment n'étaient pas avertis de cet incident qui avait lieu quelques heures plus tôt, pensent que c'est simplement un coup de bluff de la part des Brésiliens. Et effectivement, sur la première feuille de match, le nom de Ronaldo n'apparaît pas, mais une heure avant le coup d'envoi, le nom de Ronaldo apparaît. Pour eux, il n'y a pas de souci Ronaldo. Mais du côté des Brésiliens, il y a un énorme doute. Leur meilleur joueur a été transporté à l'hôpital quelques heures avant la finale. Eux, ils doutent.
L'arbitre siffle le début de la rencontre à 21h au Stade de France. Ronaldo finalement est sur le terrain. J'imagine que tous les supporters ont presque peur au début de cette finale.
Soyons très honnêtes, le Brésil avec Ronaldo est favori. Mais contrairement à ce qui s'est passé contre le Paraguay, contre l'Italie ou la Croatie, les Français, ils réussissent plutôt leur début de match, ils sont plutôt libérés. Le jeu est là, le jeu est fluide, les premières occasions commencent un petit peu à se construire. Sincèrement, le début, il est plus qu'encourageant. Les Bleus sont dans le match.
27e minute, il y a corner et c'est Emmanuel Petit qui va le tirer.
Alors, il faut savoir que dans le vestiaire avant le match, Aimé Jacquet avait insisté sur une faille selon lui du dispositif défensif des Brésiliens. Il dit attention au premier poteau, ils sont pas très bons. Si on se met au premier poteau, on peut faire quelque chose. Zidane se place au premier poteau. Emmanuel Petit, comme ça a été répété à l'entraînement, centre pour son crâne. Zidane saute plus haut que le défenseur brésilien et d'une tête décroisée, envoie le ballon au fond des filets.
Il est bien frappé au premier poteau.
Zidane sur ce premier corner français.
Il se précipite, embrasse son maillot. Le Stade de France se met à hurler de joie, de stupeur. La France mène 1-0 en finale du mondial contre le Brésil. C'est ahurissant.
Quelques minutes plus tard, balle au pied, Ronaldo approche de la surface de réparation des Bleus.
Il est lancé au but de Fabien Barthez et Barthez, sans réfréner une seule seconde son élan, va le percuter en jouant le ballon.
Surtout qu'elle est à pratiquement à la limite de la surface de réparation et qu'on voit rarement les gardiens aller à ce niveau-là.
Le choc est tellement violent que Ronaldo passe par-dessus Barthez. Alors si on est très honnête, on peut toujours estimer qu'il aurait dû maîtriser son geste. Certains arbitres auraient peut-être même sifflé un pénalty. Mais à ce moment-là, évidemment, le ballon est rendu au bleu. Quelque part, c'est comme au rugby. C'est-à-dire, en fait, psychologiquement, Barthez a dit à Ronaldo, tu ne passeras pas. Et cet instant va être essentiel pour la suite parce que psychologiquement, à cet instant, Barthez 1, Ronaldo 0.
Juste avant la mi-temps, à la 45e minute, Youri Djorkaeff tape un corner.
Ah oui, là, cette fois, on est côté gauche. Il y a des choses possibles au premier poteau. On va recommencer. Cette fois, Youri Djorkaeff dépose le ballon sur la tête de Zinedine Zidane, qui la pique un peu plus que la première fois, mais ça fait 2-0.
Djorkaeff et but ! Zidane ! Deuxième but de Zidane ! Je vous avais dit, il y avait le corner qui venait, il y a eu deux corners, et c'est le doublé de Zinedine Zidane !
On n'est plus en train de rêver, on est au-delà du rêve, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? On va être champion du monde.
Les Bleus mènent 2-0 à la pause, dans le vestiaire, Aimé Jacquet et Didier Deschamps leur mettent la pression.
Oui, parce qu'il y a un ennemi invisible à cet instant dans le vestiaire, ça va être l'emballement, parce que tout semble, le plus dur semble fait, on a l'impression qu'il n'y a plus qu'à gérer. Et là, Didier Deschamps sait qu'on peut faire des livres d'histoire avec des matchs à 2-0 qui se sont remontés, donc il faut être extrêmement vigilant.
On ne lâchera rien, pas maintenant.
Et surtout veiller à ne pas commettre la moindre erreur qui remettrait les Brésiliens dans le match. Ça, ça va être le credo des deux hommes pendant toute la mi-temps.
On se met mis là, mais on a fait le plus dur, mais il y a encore 45 minutes de folie. Allez, allez, allez.
En deuxième période, le défenseur Marcel Desailly est expulsé.
Ben oui, parce que Marcel Desailly, pour une intervention un peu trop rugueuse sur le Brésilien Cafu, récolte un deuxième carton jaune objectivement justifié. Et voilà, ça y est, ce qu'on craignait, ce petit problème qu'on imaginait. Certes, elle mène 2-0, mais elle est à 10 contre 11. Maintenant, il va falloir tenir. Et d'un coup, la joie qui commençait à traverser les travées du Stade de France, il y a un petit vent, non pas de panique, mais d'inquiétude. Attention, ils peuvent revenir.
Expulsion à la 68e minute, les Français tiennent.
Les Français vont parfaitement tenir, parce qu'à part une frappe brésilienne sur la barre, ils vont gérer leur avantage, ils vont resserrer les rangs, ils savent faire ça. Rappelez-vous, ils jouent en Italie, la majorité, ils savent tenir un résultat à 10 contre 11 ou à 11 contre 11, ils gèrent parfaitement, ils bouchent les espaces. Franck Leboeuf et Marcel Desailly en défense centrale sont admirables, les latéraux sont parfaits, ils gèrent parfaitement leur avantage.
Il ne reste plus que quelques minutes de jeu, la France mène 2-0, ça y est, elle est quasiment championne du monde.
Ouais, elle est championne du monde, elle savoure sur le terrain, les joueurs commencent à savourer. Les Brésiliens ont renoncé, ils tiennent le ballon, mais non, le match est fini. Et pour parachever ça, il manque encore un petit feu d'artifice. Il va arriver avec un dernier contre. Emmanuel Petit est lancé au but.
Petit et but.
Et troisième but
d'Emmanuel Petit qui marque à la dernière minute.
Et il inscrit le troisième but des Français, le millième but de l'histoire de l'équipe de France, qui va donner naissance à un slogan qui a traversé les générations depuis, et 1, et 2, et 3-0, c'est parfait.
Vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. 3-0, deux buts de Zidane, un but de Petit. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe! Quel pied! Ah, quel pied!
Merci à Christophe Bérard. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Cet épisode a été conçu et préparé par Stéphane Geneste. Production Benjamin Boucriche et John Timsit. Réalisation Alexandre Ferreira. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire sur votre application de podcast préférée, comme Apple Podcast et Podcast Addict. Vous pouvez aussi nous écrire codesource@leparisien.fr.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.